RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de l'actualité de la semaine, et ça a été l'affaire, la une, le gros titre de la semaine, Kim Kardashian dévalisée à Paris. Alors on va pas en refaire des tonnes, juste pointer du doigt qu'avec ses 10 millions d'euros de bijoux, elle descendait dans une résidence moins sécurisée qu'un hôtel et qu'elle est repartie en jet privé pour les États-Unis, tandis que les voleurs, eux, étaient arrivés et sont repartis en vélo. Alors 10 millions d'euros de bijoux, c'est une somme, mais c'est beaucoup plus que l'État va sortir pour sauver le soldat Alstom Belfort. 500 emplois à 6 mois de l'élection présidentielle. Il ne faut surtout pas que l'usine ferme. On sent le chéquier, 800 ou 900 millions d'euros, avec une grosse commande par l'État de 15 TGV à étage qui rouleront sur des voies normales et donc pas à grande vitesse. C'est ce qu'on a appris cette semaine. Plus 200 millions d'euros pour 6 TGV pour le Paris-Turin-Milan, plus 20 locomotives dépanneuses. Voilà la grosse commande industrielle de la semaine pour sauver Alstom Belfort. À propos de l'élection présidentielle, on pourra, on l'a appris là aussi cette semaine, voter jusqu'à 19h à la présidentielle de 2017. Les bureaux de vote fermeront partout en France à 19h au lieu de 18h habituellement, même si dans les grandes villes c'était déjà souvent possible de voter jusqu'à 20h. Alors cette mesure de clôture plus tardive des bureaux de vote, c'est pour limiter les risques de divulgation prématurée des premiers résultats partiels. L'élection présidentielle qui pour l'instant se joue au niveau des primaires, Alain Juppé à droite toujours favori. À gauche, Arnaud Montebourg qui a annoncé cette semaine qu'il participera bien à la primaire de la gauche, affirmant qu'il faut se rassembler pour pouvoir l'emporter en 2017 et éviter le scénario catastrophe d'une élimination dès le premier tour, comme en avril 2002. Arnaud Montebourg qui est donné gagnant face à François Hollande lors de la primaire de la gauche au second tour avec 52% des voix contre 48%. Du côté du Front National, Marine Le Pen a annoncé avoir trouvé son QG de campagne. Ce sera rue du Faubourg Saint-Honoré et Marine Le Pen a toujours besoin d'une vingtaine de millions d'euros. Les banques françaises refusent de lui prêter. Il n'est donc pas exclu que le FN doive faire appel, une fois encore, à des banques russes, comme ça avait été le cas déjà il y a 5 ans. À propos d'argent, notez qu'on pourra bientôt payer par selfie. Mais oui, Mastercard a annoncé le lancement du paiement par identification faciale dans 12 pays européens. Le principe est simple, celui qui possède une Mastercard pourra valider son paiement sur son mobile en utilisant la reconnaissance faciale par selfie. Les Français qui préfèrent d'ailleurs toujours plus le petit écran, c'est donc désormais le smartphone et non plus la télé qui est de moins en moins petit écran que les Français regardent en majorité en 2015. Pour la première fois, les Français ont passé plus de temps sur leur mobile que devant leur télévision. Alors ça en fait des heures passées le nez sur les écrans, et les heures, elles nous sont comptées puisque la revue scientifique Nature affirme qu'on est arrivé au bout de la vie humaine, que la durée de vie maximale avec les super centenaires est atteinte autour de 115 ans. Les chances de vivre 125 ans sont quasi inexistante, affirme la revue. Depuis le décès de la Française Jeanne Calment, à 122 ans, le record, eh bien les doyens de l'humanité sont tous morts aux environs de 115 ans.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, c'était Tribune Foot la semaine dernière. C'est le retour de Tribune Sport ce matin avec un invité qu'on est ravis en tout cas d'accueillir. Il n'était pas venu à ce micro depuis un petit moment, il nous vient de Chevreuse. C'est notre ami Alain Dagen, président de Nanosport. Alain, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci
pour,
à vous.
Pour parler un peu de votre actualité, de ce qui va se passer pour le nanisme donc au niveau du sport dans les prochains mois, pour parler aussi des Jeux mondiaux, des gens de petite taille, et puis également donc de ce que vous avez fait l'été dernier à travers une ascension tout près du Mont Blanc.
Oui, oui, oui. Bah, écoutez, moi je suis ravi de faire partager ces expériences sportives pour des gens pas tout à fait comme les autres, avec vous et avec les gens que l'on aime bien aussi autour de Chevreuse et d'ailleurs. Merci.
Alors Alain, ça nous rappelle de bons souvenirs. Hein. Les Jeux mondiaux des personnes de petite taille, c'était il y a presque 12 ans.
Hein, oui.
Que de souvenirs. Pourtant, Dieu sait si journalistiquement on vit des choses fortes, mais celle-là, je crois que ça restera parmi les plus fortes, humainement. Hein.
Rien que de me rappeler cette histoire, vous me faites faire des frissons. et je crois que toutes les personnes qui ont touché de près ou de loin à cette aventure de Rambouillet 2005 ont, dans leur cœur, dans leur âme, vécu quelque chose de grand. En fait, notre handicap ou notre différence fait que, et ce projet de partager ensemble des activités pendant une semaine avec des gens que l'on connaît pas venus des quatre coins de la planète a fait que nous nous sommes tous rassemblés derrière cette aventure sportive sans exigence de résultat mais simplement une exigence de participation avec du cœur, de la foi. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, qu'on se rassemble derrière des projets sans obligatoirement attendre de chacun une médaille ou simplement qu'on attend de chacun la participation avec enthousiasme et cœur. Et les supporters et les nombreux volontaires ont répondu cette fois-là très présents et se sont, je pense, récompensés à avoir tous les sourires sur les stades.
C'est vrai, et ça reste en tout cas des moments forts. Alors, comme vous êtes, je sais, un amoureux du sport en général, vous êtes très omnisport, eh bien, vous interviendrez aussi à l'annonce de quelques résultats qu'on va vous donner sur ces manifestations. Merci. De ces dernières semaines. Je voulais simplement dédier cette émission à Éric Poisson, l'ex-directeur de l'hippodrome d'Ambouillet. On a appris son décès dimanche dernier, juste après notre émission où on avait donné les pronos pour la dernière réunion de la saison à l'hippodrome d'Ambouillet. Éric s'en est allé à 61 ans, il avait très largement contribuer à l'essor de l'hippodrome de Rambouillet et le monde des courses, et l'hippodrome lui doit énormément de choses. Donc une pensée pour Éric Poisson, et puis il rejoint ces grands dirigeants du sport qu'on a connus et qu'on a accompagnés tout au long de notre vie journalistique et qu'on est fier en tout cas d'avoir accompagné. Donc lui qui était un amoureux du sport, eh bien on va lui dédier cette émission de ce dimanche 9 octobre. Allez, ça va commencer avec quelques petits résultats. Paris-Versailles, vous avez jamais couru Alain?
Non.
En tout cas, c'est une épreuve qui s'est déroulée il y a 15 jours. Hein. C'est un classique, un rituel. 39e édition, il y avait 22 040 coureurs donc, qui ont été classés dans cette course longue de 16 km qui partait donc de la Tour Eiffel pour arriver au château de Versailles. Naturellement, c'est un Kenyan qui s'est imposé, Stéphane Ogari, en 49 minutes 59 secondes. Il s'est imposé devant un coureur du Burundi, Abraham Niyonkurui, 50 minutes 16 secondes. Le troisième, c'est Emmanuel Rudolf Lévis, un Français, donc 50 minutes 18 secondes. Et Abdelatif Metaf, un autre Français, termine quatrième, 51 minutes 11 secondes. Chez les femmes, c'est Etagen Voldu Mamo, une Éthiopienne, qui l'emporte en 55 minutes et 19 secondes. Et puis, il y avait également le même week-end des 24 et 25 septembre, les traditionnels trophées Hervé Tennis. On en avait parlé avec Hervé Guérin, hein, président du Perret en Yvelines pour le tennis. Eh bien, c'était une épreuve un peu charismatique, un peu atypique, hein, qu'on a organisé il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les clubs y restent encore très attachés. Il y a un décompte de points un peu particulier, mais c'est vrai que notre fierté, c'est que, eh bien, ces trophées perdurent. Donc, pour l'édition 2016, eh bien, c'est Aufargis qui l'a emporté. Aufargis qui s'était imposé lors de la première édition, eh bien, qui a renoué avec le succès. 25 points pour Aufargis. Deuxième, Cernay-la-Ville, 25 points, mais Aufargis l'emporte grâce à un nombre de participants un peu plus important et élevé. Le troisième, c'est le Perret en Yvelines, 14 points. Quatrième, la Clairière, 8 points. Chez les jeunes, le Perret qui avait quand même gagné 3 années de suite ces dernières années, ses trophées, eh bien, sauf quand même la face, en l'emportant chez les jeunes, avec 10 points devant Aufargis et Cernay, 9 points, alors que la Clairière termine 4e avec 0 points. Et oui, ils ont eu des problèmes de jeunes pour participer à ces trophées cette année, ça paraît quand même assez incroyable. Au niveau donc des participants, eh bien c'est Aufargis qui l'emporte, hein, participant dit différent, naturellement, c'est aussi un peu le but de cette épreuve. Aufargis qui l'emporte, donc c'est un carton plein d'Aufargis, une razzia d'Aufargis, avec 14 points devant Cernay-la-Ville, 2e 13 points, 3e le Perret et la Clairière, 9 points. Et puis au niveau du plus grand ou du plus âgé des participants, eh bien c'est également un joueur d'Aufargis, âgé de 74 ans, donc qui a remporté le trophée. Donc naturellement, eh bien, la remise des récompenses, elle a eu lieu sur Aufargis, et on est allé demander aux 4 représentants des clubs concernés comment ils avaient vécu cette sympathique édition 2016. Allez, je suis avec 4 responsables donc des clubs de tennis concernés par l'édition 2016 des trophées RE. On va commencer avec celui qui nous a reçu, qui a organisé ce week-end final, c'est Jean-Michel Esprit. Jean-Michel, c'est une razzia d'Aufargis cette année, vous retrouvez la victoire finale finalement.
Mais oui, avec étonnement, on n'y croyait pas trop, mais c'est bien, bon, tout le monde a bien joué le jeu.
Bon, ça s'est quand même joué sur le fil hein, avec Cernay-la-Ville.
Oui, tout à fait, on a eu des rencontres très très équilibrées, et je crois que toutes les rencontres se sont jouées sur le fil, et bon, on a gagné, mais c'est vraiment un coup de chance.
Alors, vous emportez au niveau du plus grand nombre de participants aussi, et puis la personne la plus âgée.
Oui, bah, les les personnes qui ont organisé, effectivement ces trophées, bon, ce n'est pas moi, hein, c'est Marc. Et puis Louis, ils se sont démenés pour trouver beaucoup de gens. Et puis bon, ça nous a permis effectivement de gagner ces deux trophées.
Bon, il a fait beau, toujours autant d'enthousiasme, plus de 20 ans après la création de cette épreuve qui nous est chère, qui nous tient à cœur.
Autant d'enthousiasme, presque. Ouais. C'est vrai que ça commence un petit peu à s'user. On a peut-être un petit peu de mal à trouver des gens et un petit peu de mal à se démener, mais bon, on est toujours dans l'enthousiasme.
Bon, un club qui aussi est ravi, malgré la défaite, c'est Cernay-la-Ville. Ils reviennent de loin. Ils n'avaient pas été très brillants ces dernières années. Ça va beaucoup mieux. Donc, objectif 2017, Vincent.
Ah, il y a erreur. Je pense que non.
Non,
on a gagné tous nos matchs de tennis, non, mais après.
Non, pas l'année dernière, non.
Non, si. On a passé un bon week-end. On a profité d'un beau week-end ensoleillé. Des belles parties pour les jeunes aussi, très bien, bonne ambiance.
Alors je l'ai dit, vous n'étiez pas très brillant dans ces trophées ces dernières années, vous revenez bien donc l'année prochaine, 2017.
D'accord, avec plein de participants pour avoir une chance de gagner.
Pas trop déçu quand même d'échouer comme ça sur le fil au nombre de participants.
Non, c'est vrai, côté tennis, on a bien joué, ça va, ça a été.
D'accord, alors Hervé Guérin, c'était le Perret qui a gagné 3 années de suite, et puis cette fois-ci c'est fini, vous revenez qu'avec le trophée des jeunes, c'est déjà très bien, mais la déception est pas énorme ce soir.
Non, c'est un très beau trophée RVE, moi je suis très content de tous ces matchs qui sont déroulés dans nos 4 clubs, c'est un moment très convivial, c'est juste ce qu'on recherche, exactement. Là, il a fait très beau, les gens étaient très contents, c'est l'essentiel. Les résultats après, je dirais pas que c'est anecdotique, c'est toujours très plaisant. Là, on a une belle cérémonie là qui nous a fait Jean-Michel L'Esprit. Donc voilà, moi je suis très content que ces trophées perdurent, malgré des fois peut-être des difficultés, des choses comme ça, mais c'est vraiment un moment très convivial et il faut faire perdurer ces trophées que tu apprécies aussi beaucoup, mon cher.
Philippe. Absolument, et puis c'était donc d'ailleurs la première édition avait été déjà gagnée en 95 par Ophargis. C'est dire, allez, on va finir avec un club qui a très longtemps dominé ses trophées, qui sont un peu rentrés dans le rang aujourd'hui, c'est La Clairière, avec un représentant, Philippe, pas trop déçu, parce que même chez les jeunes, vous êtes assez loin, ça a souvent été une spécialité pour vous pourtant.
Ah ben, écoutez, moi c'est la première fois que j'organise ce trophée au sein du club, donc je ne connaissais pas bien le règlement. Néanmoins, je suis très content des matchs qu'on a pu faire. Il y a des matchs équilibrés, on s'est bien amusé. L'an prochain, on viendra avec une équipe avec le maximum de participants. Maintenant qu'on connaît la règle. Mais néanmoins, c'était très bien, il a fait très beau.
Oui. Et on va remercier naturellement Jean-Michel tous les participants de cette édition 2016 en donnant déjà donc rendez-vous pour l'an prochain.
Oui, moi je remercie les présidents de club qui participent à ces trophées, puis tous les participants bien sûr, comme le disait Hervé. Voilà. On est là pour s'amuser, on a gagné, c'est effectivement comme ça. Bon.
C'est bien de trouver des bénévoles dans cette période un peu difficile. Là, je remercie Franck Barcelot, tous les adhérents qui ont participé du club, du Perret et bien sûr des autres, d'avoir participé à ce beau week-end sportif.
Merci messieurs. Vous avez vu, dans la bonne humeur, et en plus, on a beaucoup d'humour du côté de Cernay, qui ont été battus et qui, avec plein d'humour, nous disaient ne pas avoir perdu un match. Mais c'est ça aussi, les trophées RVE. Voilà, ça c'était pour le week-end des 24 et 25 septembre. Vous aimez le sport en général, Alain,
Oui.
Tous les sports.
À peu près tous les sports. J'ai pris beaucoup de plaisir cette année, quand même, il y a eu pas mal d'événements olympiques et paralympiques. Donc, à suivre. Et puis, vraiment, pour mes collègues Andy, là, qui ont participé aux Jeux Para. Je trouve que France Télévisions a fait un effort considérable et les messages qui sont passés étaient tout à fait positifs et puis les résultats aussi. Donc c'était une belle expérience de retransmission et de communication sur le handicap et sur le sport en général.
Voilà, alors les week-ends derniers, les week-ends des 1 et 2 octobre, il y avait naturellement la traditionnelle gentleman cycliste de Poigny-Rambouillet qui a clôturé la saison de vélo dans notre région. Eh bien la victoire, elle est revenue à Thierry Jacquet de l'ESMP, accompagné de son coéquipier Bardou Jean-Marc. C'était un temps compensé, donc 21 minutes et 17 secondes pour faire les 17 km de l'épreuve, devant Michel Gauthier d'Orsay et Trevor Osworth du TC Bayet en France. 21 minutes 20 secondes et la troisième équipe, eh bien, ce sont les frères Garnier, Jean-François et Jean-Michel du VC Canton Marennais qui donc ont terminé troisième en 21 minutes et 23 secondes. Il y avait 70 12 équipes engagées dans cette gentleman qui est aussi une tradition et qui clôt bien la saison dans notre région en matière de vélo. Autre événement important, tiens, c'était aussi le Trail de Saint-Cerf-sous-Dourdan. Il n'y aura pas malheureusement cette année la course des quatre châteaux à Chevreuse, une nouvelle fois annulée, malheureusement, on peut le regretter. Mais par contre, à Saint-Cerf-sous-Dourdan, ben, c'était la Saint-Cyrienne, une épreuve longue de 11 km. C'était des seniors, hein, victoire de Delphine Thébault chez les femmes en 58 minutes et 59 secondes. C'est une non licenciée. Et de Guillaume Henry de Versailles Triathlon en 41 minutes et 43 secondes. Ça, c'était chez les hommes. Et puis pour les 20 km, c'était le Trail des Tourelles. Eh bien, donc, victoire de Morgane Glorion des foulées bruyétoises en 1h34 minutes et 52 secondes chez les femmes. Et chez les hommes, c'est Julien Lejar, un non licencié, qui l'emporte en 1h28 minutes et 25 secondes. Et puis, il y avait en matière de tennis également les finales sud-divines de Masters. Hein. On l'a toujours dit que, au mois de septembre-octobre, l'actu était particulièrement riche et dense en tennis. Alors le Master, c'est bien, c'est un tournoi à l'année organisé dans plusieurs clubs qui réunit plusieurs jeunes. Et puis les jeunes qui gagnent ces tournois se rencontrent pour un tournoi final le temps d'un week-end. Cette année, c'était le Perret en Yvelines qui organisait ses phases finales. Alors je vais vous donner les vainqueurs hein, dans les différentes catégories. Dans les filles de 8 à 12 ans, c'est Margot Auroux de l'US Saint-Arnoux qui s'impose. Chez les filles de 13 à 14 ans, c'est Axel Binet de l'Amicale Lucé qui l'emporte. Et chez les garçons de 12 ans, victoire de Octave Galliana du TC Rambouillet. Chez les garçons entre 13 ans et 14 ans, c'est Martin Percella du TC Manille-Hameau qui l'emporte. Garçons 15-16 ans, victoire de Thomas Veillé, tiens, de Chevreuse, hein, du tennis club de Chevreuse. Et chez les garçons de 17 à 18 ans, c'est Johan Sionneau de l'AS Mine Orange qui remporte donc l'édition 2016. C'est bien parce que c'est peut-être eux demain qui vont briller, qui vont porter haut donc les couleurs du tennis dans notre région.
C'est bien, il faut encourager cette jeunesse et les résultats lorsqu'ils sont positifs pouvant que les applaudir, puisque c'est vrai que je veux dire la carrière d'un athlète, elle commence très tôt et elle se finit souvent peut-être aussi quelquefois très tôt, mais il faut encourager, stimuler, et les radios, que ce soit les communicants oraux ou écrits, doivent stimuler cette jeunesse à faire et à continuer à faire.
Voilà, en tout cas, c'est une belle initiative dont est à l'origine Jean-Louis Mazard. Et Jean-Louis Mazard, eh bien, 9 ans après, puisque c'était la 9e édition, il ne revient toujours pas de l'ampleur qu'a pris donc ces finales sud-divines de Masters dans le calendrier tennis de la région. Oui. Allez, Jean-Louis Mazard, une nouvelle édition des Masters qui se termine, une nouvelle fois, une belle réussite.
Oui, bonjour, oui, très belle réussite, 9e édition, toujours autant de participants, les enfants, très heureux, on a de plus en plus de lots à leur offrir, donc vraiment, on attend la 10e maintenant.
Oui. C'est vraiment devenu une institution hein, dans le calendrier tennistique.
Oui, dans le secteur, on va même plus parler du secteur sud, puisque maintenant ça s'est étendu au centre des Yvelines, ça s'est étendu à l'Essonne, dans l'Eure-et-Loire, enfin on a 10 départements maintenant qui viennent chez nous. Donc ça commence à se faire connaître et le niveau tennistique du coup augmente chaque année. On commence à avoir des très très belles finales.
Alors justement parmi les petits jeunes, là, il y en a demain qu'on peut voir sur le plan régional ou même pourquoi pas national briller.
Alors sur le plan régional ça c'est sûr, il y en a ils sont déjà avec leur classement en seconde série. Après sur le plan national pourquoi pas, mais bon on est encore un petit peu tôt au niveau de l'âge là pour les plus jeunes, parce que ceux qui peuvent être sur le niveau national c'est plutôt les 12 ans, déjà les 14-15 sont bon niveau mais pas encore assez pour être pour l'instant au niveau national, enfin au niveau international, on va dire national, oui.
En tout cas, Jean-Louis, ça augure d'une bonne saison pour le tennis. On dit que les effectifs sont un peu en baisse, alors c'est assez paradoxal, des jeunes qui de plus en plus sont présents dans ces finales de Masters et puis des effectifs qui baissent.
Oui, parce qu'en fait, c'est pas la compétition qui est en baisse, c'est le tennis loisir, on va dire. C'est là où on perd un petit peu d'adhérents et puis au niveau adulte aussi, voilà, il y a tellement d'autres occupations à faire. On fait ce qu'on peut pour essayer de faire venir les joueurs chez nous, mais non, au niveau compétition, ça baisse pas par contre.
D'accord. Donc rendez-vous en 2017. On connaît le lieu des finales, non?
On n'a pas encore décidé. On va faire une réunion des présidents et on va décider où va avoir lieu la 10e édition.
Très bien, merci Jean-Louis.
Merci à vous. Au revoir.
Voilà, il est particulièrement heureux, Jean-Louis Mazard, et on peut le comprendre. Allez, maintenant, on en a profité pour interviewer Jean-Claude Vin, hein, le président de l'entente sportive du Perret en Yvelines. On a à cette occasion donc profité pour faire un petit peu le point sur la rentrée du sport au Perret en ce début de saison sportive 2016-2017.
Allez, avec le président de l'ESPRE, M. Jean-Claude Vin. Monsieur Vin, sympa cette manifestation des finales de Masters.
Ah oui, effectivement, très sympathique. Ben, beaucoup de jeunes qui ont visiblement un très bon niveau. Hein, j'ai assisté à la finale là, des jeunes, là, effectivement, c'est un niveau. Vraiment, très chouette. Ouais.
Ça prouve que le tennis est un sport important aussi, opéré à travers donc, l'organisation de ces finales.
Ah oui, le tennis, effectivement, c'est un sport qui plaît beaucoup, notamment aux jeunes. Au sein de l'ESP, c'est quand même une section qui. Une des 10 sections, parce qu'il y en a 10 à l'ESP, c'est une des plus importantes, hein, qui a le plus grand, une de celles qui a le plus grand nombre d'adhérents, un peu plus de 200 adhérents quand même, hein, pour un total d'environ 1200 adhérents pour l'ESP. Effectivement, c'est un sport qui plaît beaucoup, notamment aux jeunes, effectivement.
Alors comment donc s'est effectuée cette rentrée 2016 pour les différents clubs de l'ESP?
Bah écoutez, au travers de la journée du forum où se font la plupart des inscriptions, effectivement, on peut dire que la rentrée se porte bien, enfin l'ESP se porte bien, vu le nombre de gens qui sont venus déjà se renseigner, puis certains qui pour certains ont officialisé leur inscription. Au-delà de ceux qui, en plus de ceux qui s'inscrivent déjà en fin de saison, qui savent déjà qu'ils vont renouveler la saison prochaine. Donc là, effectivement, il y a eu pas mal de sections qui ont eu, lors du forum, de nouvelles inscriptions.
Quels sont les sports les plus importants? Peut-être les plus anciens, le foot, le tennis?
Alors effectivement, parmi les plus anciens, on va commencer par le plus ancien, il y a le foot, effectivement. Il y a le tennis aussi, le judo. Hein, le judo, je crois que c'est la deuxième section qu'il y a au sein de l'ESP. Le foot, le tennis, le judo. Et puis ensuite, ce sont des sports d'un collectif de salle, le handball, le basket aussi, qui a pas mal d'adhérents, le volleyball. Ensuite, sport de raquette, le badminton, le tennis de table. Et puis ensuite, des sports également, une section aussi au niveau art martial, c'est le karaté, avec sa variante, le kobudo. Voilà, donc ça, je crois que j'en ai oublié aucune parmi les 10 sections. Là, donc ça fait pas mal d'activités opérées.
Est-ce qu'il y a l'envie d'arriver de nouveaux sports? Est-ce qu'il y a une demande pour l'arrivée de nouveaux sports?
Il y a toujours des personnes qui me contactent ou qui contactent la mairie pour savoir s'ils peuvent venir s'installer au Perret. Mais aujourd'hui, les infrastructures ne le permettent pas. Donc on se contente effectivement de 10 sections compte tenu des infrastructures dont on dispose.
Très bien, dernier petit mot. Quels sont les temps forts? Il y aura des manifestations importantes sur le Perret cette année, en 2016-2017?
Alors parmi les manifestations qu'on peut dire importantes, il y a comme chaque année, alors en général c'était au mois de novembre, cette année ça sera plutôt au moment du printemps, je pense, un tournoi international de karaté qui regroupe des pratiquants de pas mal de pays frontaliers, on va dire, enfin même certains viennent paraît-il du Maroc donc pour faire un stage de karaté. Donc ça, c'est une manifestation qui a lieu maintenant depuis plusieurs années. Il y a le tournoi de judo, qui a lieu tous les ans au mois de mai, fin mai, début juin. L'ex-tournoi Édouard Colpart, qui maintenant est devenu le tournoi Étienne Lavigne. Il y a aussi au niveau du foot, depuis quelques années, un regroupement de foot au moment des vacances de Pâques organisé par un footballeur.
C'est Laurent Fournier,
voilà exactement. Je cherchais le nom, Laurent Fournier. Donc qu'est-ce que j'oublie parmi ensuite depuis maintenant 2-3 ans, il y a aussi au niveau du champ de foire, au moment du mois de juin, il y a du beach volley, du sandball aussi, donc c'est le handball de plage, on va dire. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme manifestation?
Et puis pour le Téléthon aussi, je crois, hein, le Perret
va être présent. Alors le même, effectivement, le Téléthon, la mairie l'organise une année sur deux, tous les deux ans, en alternance avec la section Alternature 3R qui effectue effectivement son grand trail. Donc cette année, premier, ça sera effectivement le trail l'Origol, qu'on appelle l'Origol, effectivement. Qui est, alors cette année, je ne sais pas s'il y aura les trois boucles comme l'année dernière, comme il y a deux ans. Je crois qu'il y en aura, d'après ce que m'a dit Jacques Poligny, je pense qu'il n'y en a que deux, mais effectivement sur des distances qui se sont allongées, puisque je crois que la grande boucle fera, enfin la plus grande distance fera 100 km.
Donc un programme bien chargé pour finir.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors effectivement, cette activité-là n'est pas au sein de l'ESP, puisque c'est une association à part, mais effectivement, au niveau des manifestations organisées dans le PRS, c'est effectivement riche, on va dire que c'est riche, oui, voilà.
Merci.
Voilà, donc l'actualité est bien remplie aussi pour le Perret en Yvelines, et il se passera énormément de choses encore en matière de sport. Allez, on va finir cette série d'interviews avec M. Goivin. Il est directeur de l'agence d'Elancourt du Crédit Mutuel. Il était là et on lui a demandé ce que ça pouvait apporter, donc une manifestation sportive, une telle manifestation sportive à son établissement.
Allez, avec M. Goivin, donc le directeur de l'agence du Crédit Mutuel d'Elancourt. Monsieur Goivin, d'abord, pourquoi votre présence ici au Perret ?
Bah écoutez, en tant que banque de proximité, on accompagne sur notre zone de chalandise les associations sur de tels événements. Donc en tant que banque également des associations, on se doit d'être présent. Alors donc on apporte une partie, une aide logistique sur ces événements et parfois également une participation financière. Donc c'est vrai que des partenariats sont multiples sur des associations sportives ou culturelles et autres, donc voilà, et c'est vrai que c'est un plaisir de voir de telles réussites et j'espère que l'année prochaine ça sera également la réussite sera de la partie.
Comment se fait le choix des différentes manifestations ? Parce que je suppose que vous devez être constamment sollicité.
Ah, c'est vrai qu'on est très 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 sollicité par les associations, encore plus maintenant. Après, le choix se porte sur la taille de l'événement. Après, c'est vrai qu'on essaye de participer. Alors, on ne participe pas financièrement à tous les événements, parce qu'on ne pourrait pas. Mais je sais que moi, à Elancourt, on est très très sollicité sur des événements, on va dire, de grande ampleur, qui ont une résonance, on va dire, locale, donc Yvelines Sud. Donc c'est vrai que c'est là-dessus on se devait de participer.
Et que peut apporter donc de telles manifestations à un organisme bancaire comme le vôtre ?
Bah écoutez, nous à Elancourt, on a créé l'agence en 2011, donc on est en perpétuel développement. Donc moi, ce que je souhaite sur des actions de notoriété, c'est de transformer, faire parler de nous, du Crédit Mutuel, et que ça se transforme en nouveaux clients, que ce soit des associations ou même des particuliers, voire des entreprises. Hein, donc plus on parle de nous, plus les clients potentiels seront nombreux.
Oui, parce que le sport est porteur. On voit, il y a des banques qui ciblent leur événement. Hein.
Ah oui.
Certains banques sur la voile, d'autres sur le rugby, d'autres sur le tennis, on ne va pas le citer. D'autres sur le Tour de France.
C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, ça, c'est toute cette communication est plus faite au niveau national. Après, nous, en termes de proximité, c'est vrai qu'et et comme je le répète, en tant que banque des associations, on essaye d'être le plus présent possible.
Dernier petit mot, sur quelle prochaine manifestation allez-vous aller ?
Ah, bon, de 2016 est en train de s'achever tranquillement. 2017, j'ai pas encore été sollicité sur d'autres événements, mais je sais que un événement sportif sur la colline d'Elancourt aura lieu en septembre, donc on sera également présent. Donc
ce sera du VTT.
Ça sera du VTT, du vélo.
Très bien, merci en tout cas.
Merci, bonne soirée.
Voilà, à M. Goivin et pas M. Goivin, un petit mot, une petite réaction là-dessus, donc sur l'apport de ces partenaires bancaires ou de ces grandes entreprises. C'est nécessaire, c'est indispensable.
C'est nécessaire, c'est indispensable, puisque sinon les frais engendrés par les manifestations organisées par des sportifs et à laquelle participent les sportifs ne doivent pas, éteindre leur porte-monnaie et surtout diminuer leur pouvoir d'achat au maximum. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces grandes entreprises et notamment des banques, puisque c'est vrai qu'elles ont quand même une action positive à mener sur le sur la société, dans l'environnement dans lequel elle se trouve. Et à titre personnel, donc l'association Nanosport s'est appuyée sur la Société Générale de Chevreuse pour organiser le Salon du Chocolat. Et depuis 3 ans, l'association, la Société Générale est notre soutien. Et pour l'histoire Mont-Blanc dont nous allons parler tout à l'heure, nous avons été accompagnés grandement, en totalité, par le groupe Caisse d'Épargne de France. Et c'est vrai que tout le monde a y gagné, notamment ces entreprises-là en termes d'image, puisque bon, des images de proximité, des images de fraternité et de soutien, et puis d'insertion dans la vie sociale et active des citoyens, voilà, tout simplement.
Très bien. Allez, Alain, vous allez jouer les animateurs radio et journalistes, vous allez envoyer la page de pub, d'accord ?
Messieurs, dames, je vous envoie donc tout simplement une page de pub pleine de gaieté, pleine de belles choses. Oui.
C'est très bien.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15. Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
La Cime Verte et la Gage vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin ? La Cime Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler ? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences ? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cime Verte, votre professionnel de l'élagage, 71 bis, rue de la Grange-Colombe, à Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimeverte.com.
Sous-titrage Société Radio-Canada. sport dans votre région avec RVE.
Voilà, alors cette émission, naturellement, vous pourrez la réécouter dès cet après-midi en podcast. Alors ça, on a parlé des manifestations de ces dernières semaines sportives. Il y en a encore d'autres quand même ce week-end, même si l'actualité va un peu se raréfier maintenant. Il y a la fête du sport à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, organisée par le comité départemental olympique et sportif. Alors, il y aura naturellement une grande course, un marathon en relais par équipe de 4 à 6 à partir de 9h. Il y aura un village olympique avec tout plein d'activités sportives, du biathlon, se rouler, du rugby, de la pétanque, du bijolet, du badminton, de la boxe et des voitures électriques de 10h à 16h. Il y aura une épreuve d'équijeune à partir de 14h30. C'est une course non chronométrée pour enfants dans l'enceinte du parc événementiel. Et puis il y aura une initiation à la marche nordique à 14h sur un parcours de 8 km autour de l'étang, avec également un tracé restreint de 2,5 km pour bien pouvoir parfaire cette nouvelle activité. Ça sera donc à la base de loisirs de Saint-Quentin. Vous vouliez, Alain, pousser un petit coup de gueule contre le comité départemental olympique et sportif, parce que c'est quand même incroyable ce que vous m'avez dit en off quand même. Ça paraît.
Donc voilà, que ça soit le comité départemental olympique ou sportif
ou le reste,
les commissions. Les délégations qui ont qui détiennent les clés des porte-monnaies, je trouve regrettable que notre association qui a 18 ans de vie a organisé des événements tels que les Jeux mondiaux de Rambouillet, des championnats d'Europe de tennis de table spécifiques aux personnes de petite taille, cette histoire Mont Blanc, il y a énormément de choses. Nous côtoyons énormément de clubs sportifs. Nous avons fait naître le nanisme aux Jeux Paralympiques. Je suis membre du comité international des sportifs de petite taille aux Jeux Paralympiques. Nous sommes l'handicap le plus repris en termes de communication au prorata du nombre d'athlètes représentés. Et aujourd'hui, en France, notre association n'a pas touché quoi que ce soit de la DDCS, du Conseil Général et des différentes institutions qui peuvent nous aider, du CNDS, à construire nos projets et à faire que un maximum d'athlètes puissent participer. Il faut savoir que la personne de petite taille, face à l'emploi, face à la vie, a quelques difficultés un peu plus grandes que le commun des mortels, mais le sport peut lui permettre, et l'activité physique peut lui permettre, de s'insérer un peu mieux dans la société. Et la personne de petite taille, quand elle est en groupe, avec des amis, et faire des activités comme elle fait, elle donne du bon sens à la vie, et elle donne de la joie autour d'elle, et tout ça c'est reconnu des professionnels qui ont croiser notre chemin. Et aujourd'hui, je trouve simplement regrettable que nous n'ayons pas plus d'aide pour pouvoir continuer nos projets et aller encore plus de l'avant. Que ce soit le salon de chocolat, l'histoire Mont Blanc, toutes nos histoires sont écrites simplement sur notre énergie et jamais sur les aides des institutions.
Aucune collectivité locale n'a voulu jouer le jeu. Ça paraît incroyable quand même.
Nous avons les mairies qui nous accueillent, qui nous ouvrent de façon spontanée leur structure. Nous avons l'aide spontanée aussi des clubs sportifs locaux, mais c'est simplement que ça soit les différents conseils généraux, les directeurs, le ministère jeunesse et sport. On est un peu. Moi, je suis un peu très énervé, très agacé contre ça.
Oui. Voilà. À Chevreuse aussi, vous aviez des projets qui ont été aussi un peu repoussés.
D'organiser
le sport un peu différemment.
Ouais, peut-être. Bon, j'avais idée. Parce que je suis aussi un agitateur d'idées, peut-être. C'est le privilège de la différence.
Il en faut toujours.
C'est simplement qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations fonctionnent de la façon identique, c'est-à-dire un secrétariat, une trésorerie. Et pourquoi ne mutualisons pas, que ça soit sur le territoire de Chevreuse ou de la Vallée ou de ce que vous voulez, ces structures, et professionnalisons des bureaux dans lesquels se trouveraient des secrétaires, des trésoriers qui géreraient toute la partie administrative de nos associations. Cela nous permettrait à nous, volontaires qui sommes derrière les bureaux, et c'est pas trop notre truc, ça nous fait pas trop c'est pas ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour faire courir des gens ou pour les faire taper dans un ballon, et pas obligatoirement gérer les. Pourquoi ne mutualiserions-nous pas toutes nos structures et nous déléguerions à des administrations locales, rémunérées, professionnelles, toute la gestion de nos clubs. Je pense qu'on aurait tous à y gagner, que ce soit au niveau territorial, de proximité sur le territoire de Chevreuse, par exemple, pour que j'en suis, ou pourquoi pas sur le territoire départemental. J'avais une idée par rapport à la Fédération Française Handisport, où il fallait, par rapport aux derniers résultats à Londres, qui étaient assez critiqués en termes de paralympisme, pourquoi pas ne réorganiser des pôles professionnels dans lesquels on trouverait fait sur la région Île-de-France ou sur la région PACA, comme ça a été fait à une certaine période, des professionnels de sport qui seraient itinérants et qui se déploieraient dans les différentes structures qui soutiendraient les clubs pour détecter, former et éventuellement participer dans la structure de ces clubs, à l'entraînement et aux gestions des athlètes dans chacun de ces clubs. Voilà.
Il y a peut-être un projet, il y a peut-être un coup à jouer avec le projet Paris 2024.
Donc le projet Paris 2024 est un formidable projet, mais aujourd'hui j'ai assisté à deux réunions là-dessus avec la Fédération française handisport et le délégué handicap à la région Île-de-France qui est monsieur Père Denisio, qui est une personne de petite taille avec qui nous avons déjà communiqué sur les différents projets, et donc madame Valérie Pécresse, présidente de région, qui est aussi sur le sujet. Et je pense que d'abord mon idée ça serait de faire une France plus sportive, avec des structures plus sportives et plus professionnelles, si je peux dire, pour ensuite faire valoir avec que nous sommes des sportifs, nous sommes capables de pouvoir accueillir ces jeux, et nous voulons ces jeux. Pas nous voulons ces jeux pour pouvoir faire de la France un club sportif. Soyons déjà sportifs, et ensuite essayons d'accueillir des manifestations sportives où nous aurons encore plus de public. Comprenez, Philippe, que par rapport à ce que je connais, le nanisme, nous parlons de Toronto, nous allons parler tout à l'heure de Toronto, des prochains championnats du monde, ce que vous avez vécu en 2005 à Rambouillet, à Toronto, en 2017. Nous sommes à peu près une structure de population à peu près identique à celle de l'Angleterre, en termes de richesse aussi. Devinez, Philippe, à combien partent les Anglais aujourd'hui ?
Vas-y.
Ils partent à 80 minimum.
80.
Voilà. Ouais. Si les Français, nous sommes à 10 à partir, voilà. Nous serions très heureux.
Ah bon ?
Voilà.
Ah d'accord.
Donc c'est pour vous dire, faisons d'abord une France sportive, passionnée par ses activités. Travaillons à l'intégration des handis dans les structures. Travaillons à ne pas avoir sur les bancs d'école des jeunes passifs aux activités physiques et sportives. Stimulons et ensuite vendons le fait que nous soyons sportifs, que nous pouvons accueillir des stades. Ne nous satisfaisons pas simplement d'une victoire de l'équipe de France un soir comme ça. Ne nous satisfaisons pas d'une victoire de handball. Simplement, c'est une histoire sur la longueur. C'est pas une histoire sur un événement.
C'est un problème même de culture, Alain.
C'est complètement un problème de culture. Mais je veux dire, nous avons une épine dans le pied. On peut l'enlever. Et puis on peut changer. Et simplement, faisons que.
Alors justement, on va parler puisque on a abordé le chapitre, après on parlera du Mont Blanc, on va parler des Jeux mondiaux des personnes de petite taille, qu'on a vécu donc sur Rambouillet en 2005. Vous revenez sur Toronto, hein. Toronto, ça avait été en 2001. Pourquoi vous revenez sur Toronto ?
Donc je suis membre du comité international de sportifs de petite taille. Lorsque les Jeux en 2013 se sont terminés à Michigan, aux États-Unis, toujours bien entendu, plusieurs pays se sont portés candidats, la Belgique, la Hollande et un pays, l'Inde, mais voilà, à Bangalore c'était. D'un point de vue, les 10 membres du comité international de sportifs de petite taille ont spontanément, entre guillemets, éliminé l'Inde d'un point de vue simplement en termes d'hygiène, rapport à l'handicap, par rapport à enfin voilà quoi, nous allons faire du sport pendant une semaine avec des compétiteurs de 0 à 77 ans, c'est pas évident dans des structures peut-être où les exigences d'hygiène ne sont pas obligatoirement super respectées, il fallait être vigilant. Donc rester en finale la Hollande et de la défection de l'Inde, Toronto s'est mis sur le coup pour dire pourquoi pas nous à nouveau, et la Hollande était en finale avec le Canada, enfin Toronto, et la Hollande s'est désistée l'année dernière, et donc reste aujourd'hui à Toronto. J'avoue, Philippe, que ça m'a titillé aussi de repartir faire cette fête de 2005, mais voilà, Alain Dajan, il a beaucoup de choses, il a une idée qui, à la minute, donc soyons vigilants. Faisons ce que nous pouvons faire et ne passons pas le cap de trop de choses pour faire tout échouer.
Alors, ça sera au mois d'août, hein. On sait que les Jeux mondiaux des gens de petite taille, c'est un an après le jeu d'été et quelques mois avant le jeu d'hiver. Hein.
Exactement.
C'est une tradition, ça sera.
C'est une tradition, donc ça sera du 4 au 12 août, d'accord, donc une semaine. C'est donc à Toronto, dans une faculté de Guelph, si je me souviens bien. Et voilà, nous, la France. J'organise ça un peu différemment, je délègue. L'association a délégué donc un chef d'équipe qui est en charge, Anthony Hobb, qui habite sur Vittel, qui est délégué un peu à organiser tout ça, avec en termes de communication comme en termes de relais auprès des adhérents intéressés. Un capitaine d'équipe qui est Alexis Romano, qui habite sur Marseille, puisque l'association est bien entendu nationale. Et nous espérons vraiment, vraiment... Vous savez, au fait, Philippe, que pendant cette semaine-là, sera décidé si Paris 2024 est retenu. Souvenez-vous, en 2005, à Rambouillet, c'était la même période.
Oui, on était en direct. Hein.
On était en direct.
C'était à Singapour. On a vu Jérôme Rouillon, ça s'était pas très bien passé.
Voilà. Et là, ce sera exactement le même problème, la même situation à Toronto. Donc moi, je vous assure, vu le lobbying des personnes de petite taille au sein du mouvement olympique et paralympique, puisque quand même... nous sommes très, très liés les uns aux autres au niveau des pays. Ça serait vraiment dommage que la France, quand même, comment dire, membre et leader du mouvement olympique historique, ne puisse pas y être présent et présenter une équipe belle et sereine et heureuse et avec quelques résultats. Mais faisons et refaisons appel à toutes nos institutions pour que dans cet événement qui sera certainement planétaire, regardé, à la veille de la décision, je crois que la décision est le 14...
C'est le 13 septembre, là.
Un mois avant.
C'est
13 septembre 2017, un mois avant.
Ouais.
Ça sera, je crois, le dernier événement international.
Voilà.
Et voilà, il faut qu'on y soit, quoi. Parce que les États-Unis, les Allemands, tout le monde y sera. Bon, j'ai appris la défection de Rome pour cette tenue des Jeux. Ça nous donne beaucoup plus de chance. Mais soyons vigilants, tout simplement. Et participons à ce qui est... une belle aventure auquel vous avez aussi participé en 2005.
Absolument, puis allez, ça va finir par le faire. On les aura, ces Jeux de 2024. Alors pourquoi le Mont Blanc? C'était l'été, c'était le Tour de France. Bon, je sais que vous avez tout plein d'idées, Alain. Hein, on l'a dit, pratiquement une idée
à la minute.
Pourquoi le Mont Blanc? Parce que c'est quand même prendre un risque aussi physiologiquement, on le sait.
Oui. En fait, qui ne tente rien derrière, on ne savait rien. Moi, simplement, pourquoi le Mont Blanc? Parce que depuis toujours, je suis natif du Lot, de Cahors. Mm-hmm.
Très belle région.
Je crapahute pas mal dans la campagne et j'ai dit pourquoi pas ne pas rejoindre les extrêmes de notre bel univers. Et j'ai dit un jour, je ferai le Mont Blanc. Et ça m'a vraiment tenu. Quand j'ai créé Nanosport en 98, j'ai trouvé là, pour repartir sur cette histoire Mont Blanc, et que j'ai il y a 2-3 ans déjà, des premiers documents que j'avais écrits en 2001. Donc vous voyez, c'était pareil. Donc là,
15 ans déjà.
Il y a 15 ans déjà, l'idée était là, elle avait été écrite avec un bon scénario. Et donc il y a 2 ans aujourd'hui, en 2014, je suis reparti sur ce projet. Et j'ai simplement pris l'internet et j'ai contacté des associations. Et j'ai des associations et des organisations d'alpinistes de Saint-Gervais, de Chamonix. Et c'était au téléphone, j'aurais dit, écoutez, on était l'association nationale des personnes de petite taille, on m'a offert le Mont Blanc. Voilà, j'ai surpris les gens au bout du fil, je les ai étonnés, ils ont dit, vous êtes un peu malade, un peu fou. Mais bon, on y est arrivé parce que j'ai du courage, j'ai de l'abnégation, je pense que je suis passionné. Mais
faut se préparer quand même, mentalement, physiquement, faut se préparer quand même.
Ah, mais je ne suis pas un professionnel de la montagne, mais moi je leur faisais complètement confiance et j'allais adhérer au programme qu'ils allaient nous obliger de faire. Et donc, au fil de ces pérégrinations et de ces recherches, je suis arrivé à l'association En Passant Par la Montagne, qui est une association domiciliée à côté de Chamonix, à Passy, et qui a pour vocation, par le biais de la montagne, d'aider les gens en difficulté, qu'ils soient en difficulté physique, psy, et ou... dans des univers notamment, on travaille beaucoup avec le ministère de la Justice pour les gens qui sont en situation compliquée face à la société, qui ne sont pas trop en phase avec les règles obligatoires de notre société. Et donc ils sont là en politique de réinsertion, quoi. Et la montagne leur sert de pied d'appui. Et nous sommes rencontrés et nous avons mis ensemble un programme. Et depuis donc ce Mont Blanc s'est préparé en 3 étapes. La première, nous étions au Contamine-Montjoie pendant 3 jours, un week-end, quoi, crapahuté, mais un crapahut sympathique, moyenne, vraiment très moyenne altitude, sans excès de une marche, une découverte de l'élément montagne et de l'escalade, de la marche et de la randonnée. La deuxième, c'est passé à Sallanches. Là, nous avions un niveau un peu plus élevé dans la neige, avec les outils adéquats, bâtons, piolets, chaussures à crampons. On a initié, parce que l'association est aussi là pour faire découvrir et ressentir ce que l'individu seul, de petite taille ou dans son coin, parce que il n'a pas osé faire. On a fait faire du ski de fond, on a fait du biathlon, quoi, en fait. Et c'est un moment encore formidable où on a décuplé les sourires, on a surpris tous les interlocuteurs qui ne découvraient à ce moment-là le nanisme aussi. Et voilà, c'était, et les amis, les parents, les supporters et surtout les athlètes directement qui vivaient l'instant ont pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et enfin, on s'est retrouvés aussi à Fontainebleau. On n'était pas très nombreux ce coup-là pour travailler sur le bloc et l'escalade de bloc parce que ça, en fait, ça sert pas mal, quoi. Voilà.
Alors le Mont Blanc n'a pas pu être fait parce que je crois qu'il faisait pas beau, mais les cols et les montées avoisinantes ont été faites.
L'objectif était en effet le Mont Blanc le 14 juillet et le 13 juillet, le 12 juillet au soir, une alerte météo est tombée sur Chamonix. De toute façon, il était prévu de se reposer le 13, et pendant toute la journée de repos, Chamonix était dans les nuages, le Mont Blanc était fermé, et moi, comme je suis un peu têtu, j'ai dit mais on n'a pas confiance en nous, on veut nous rouler, ils veulent nous faire prendre un blanc B avec des performances moindres, mais je suis allé me faire confirmer par météo locale et l'office de tourisme local que le Mont Blanc était fermé pour les 3 jours. Réellement fermé. Il y a un seul individu qui l'a fait, mais un individu très très chevronné. Mmh. Et voilà, il était impossible pour des groupes d'initiés comme le nôtre de partir. Mmh. Et d'ailleurs, nous étions à l'UCPA de Chamonix où 140 personnes, tous voués à escalader le Mont Blanc à un moment ou à un autre, sont partis comme nous sur d'autres plans, et notamment en Italie où nous avons retrouvé pas mal d'amis. Nous sommes partis en Italie, dans les Monts Roses, Vallée d'Aoste, et nous regrettons rien à notre voyage parce que nous avons retrouvé un beau soleil. Les performances étaient peut-être moins connues que celles du Mont Blanc, mais tout aussi prestigieuses et avec des dénivelés tout aussi importants, bon, sur des altitudes moindres, bien sûr, mais on a fait quand même 3 sommets au-dessus de 4000. Et les embrassades de des professionnels qui nous ont accompagnés, que ce soit Jérôme Huet, Laurent Rivaud ou Isabelle Tauvron, Valérie Tauvron, pardon, nous ont fait chaud au cœur et ont confirmé que nous avions été des bons alpinistes à ce moment-là.
C'est bien, le pari a été gagné. Allez, la pub, la musique et ensuite on conclura cette émission bien remplie ce matin.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Artisans, chefs d'entreprise, dirigeants de PME, Amplitude Service, récemment installé dans la vallée de Chevreuse, réalise tous vos travaux de secrétariat. Rédaction de documents, devis, factures, relance client, recouvrement. Vous souhaitez faire le point sur vos frais de structure, étudier l'opportunité de réduire vos coûts ou encore optimiser vos outils d'administration. Amplitude Service dispose des compétences nécessaires pour organiser votre gestion d'entreprise avec la possibilité d'intervention directement dans vos locaux. Spécialiste depuis plus de 15 ans dans la gestion des services administratifs et des moyens communs du second œuvre, Amplitude Service a créé des offres de services adaptées à vos besoins. Amplitude Service s'occupe aussi de vos événements d'entreprise. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 06 63 44 05 90 ou sur www.amplitude-service.fr et bénéficiez de la remise promotionnelle dans le cadre de l'ouverture de nos locaux de rue de Paris à Chevreuse. Pour vos travaux de secrétariat et d'organisation d'entreprise dans les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loire, une seule solution, Amplitude Service.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
J'ai le cœur comme une éponge, spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut ta, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Glande un peu partout avec mon sac de couchage. Je suis dans tous les coups foireux, tous les naufrages. J'ai des potes qui ont de l'argent, ben ils travaillent, c'est normal. Moi mon métier c'est feignant, hey mec t'as pas 100 balles. J'ai des plans, des combines pour vivre comme un pacha. Hey viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. J'étais étudiant, chômeur, babysitter. Quand je pense que mes parents voulaient que je sois docteur. Parfois quand j'ai du blé, je flambe comme un malade. Pognon, je l'ai pas gagné, mais non, mon métier c'est minable. Waouh, super la routine, hey salut ta, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. J'ai mon matelas dans ma cuisine. Alors tu viens si tu veux. Tranquille. Allez viens. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Allez, viens la frangine. Allez viens. Non? Ah bon, d'accord.
Le sport dans votre région avec RVE.
Oui, et dans la région, n'oubliez pas qu'il y a le départ de la dernière classique cycliste française de la saison, Paris-Tour, départ de Dreux pour 252,5 km, départ fictif à partir de 10h50 et réel à 11h05 et une arrivée prévue aux alentours de 16h30 à Nulle-Gramont, donc pour la 110e édition du Paris-Tour. Alain, vous étiez un autre homme après cette ascension?
Ah oui, j'étais vraiment... Tous, vous savez, on a fait 300 mètres au-delà de 4000. Moi, j'ai coulé des larmes à chacun. J'étais peut-être plus investi parce que la majorité des autres personnes, parce que j'avais construit le projet et j'avais vécu. Mais il y a eu, oui, c'est super ce que nous avons fait. Voilà.
Voilà. Vous voulez dire un petit merci aussi?
Merci, donc merci au groupe des caisses d'épargne qui nous a accompagnés. Merci à nos trois guides, donc Laurent Riveau, Jérôme Huet et Valérie Tauvron. Merci aussi à notre ami et collègue qui a accompagné le groupe randonnée, puisque le format montagne était pour deux groupes, un format alpinisme vers les hauts sommets, un format randonnée pour les gens avec une difficulté un peu plus importante motrice et qui, d'un point de vue cardio ou physio, ne pouvait pas aller au-delà. Donc eux, pendant cette semaine-là, ont gravi leur petit sommet à leur rythme et de façon champêtre et chaleureuse avec, pour goûter aux crus locaux et aux saveurs de la haute montagne.
En tout cas, merci Alain d'être venu avec beaucoup de ferveur parler du nanisme et puis du merci. Sport et d'avoir commenté l'actu sportif de ces dernières semaines.
Alors Philippe, comme il n'y a pas que du sport, il y a aussi le Salon du Chocolat le 4 et 5 février.
C'est très bon.
Voilà,
c'est
merci.
Très bon. Eh ben, il fallait en parler. Merci aussi à Victor, naturellement, hein, d'avoir avoir été une nouvelle fois très brillamment aux manettes, comme chaque dimanche matin, que ce soit pour Tribune Sport ou pour Tribune Foot. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Tiens, on recevra la section Roller Évasion de Rambouillet. Puis on aura un petit direct avec le trail de Mani et les Hameaux. Bon dimanche à tous et à tous sur l'antenne d'Hervé. Et rendez-vous la semaine prochaine, 10h-11h. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune.